Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, Terre Sainte, c'est le titre d'une pièce du dramaturge français d'origine algérienne, Mohamed Kessimi, qui a été montée par les membres d'une scène expérimentale pragoise appelée Studio Saint-Germain. La prochaine représentation, c'est pour le 27 avril, mais nous avions rencontré Mohamed Kessimi en mars dernier, lors de la première. Nous le retrouvons donc dans l'émission d'aujourd'hui, et il évoquera pour nous la pièce, mais aussi ses regrets face à une littérature contemporaine qui a renoncé, sinon à l'engagement politique, à tout le moins à l'engagement citoyen.
C'est une pièce sur la thématique de la guerre, mais c'est pas une pièce sur la guerre, c'est une pièce contre la guerre qui s'efforce de montrer l'énergie, l'espoir ou la résistance que développent les gens, que développent les individus en cas de guerre, en cas de crise, pour ne pas désespérer. Donc c'est toute l'inventivité humaine qui se met en place pour que l'homme ne soit pas broyé par cette machine de la guerre.
Je crois savoir qu'il n'y a pas vraiment de lieu particulier, hein. Vous ne le situez pas dans un lieu particulier, mais ça pourrait tout aussi bien se dérouler en Irak, en Afghanistan ou ailleurs.
Ah oui, la pièce se déroule, c'est un peu n'importe où, hein. Il y a pas de lieu, il n'y a pas de localisation précise, mais je l'ai écrite à l'issue de très longs séjours que j'ai effectués pour des raisons personnelles et familiales, à la fois en Israël et dans les territoires palestiniens. Donc elle est nourrie, la pièce, disons, de témoignages, de tranches de vie, d'une expérience assez longue que j'ai vécue dans ces deux territoires-là, parce qu'on peut pas parler pour l'instant de deux pays. Et chaque fois, la pièce a été créée cette année un peu partout en Europe. Donc elle a été créée il y a un an à Minsk, en Biélorussie, elle s'est créée à Londres, après à Stockholm, plus récemment, aussi à Belgrade. Et bientôt à New York, à chaque fois, donc, et en Allemagne également, à chaque fois, elle a été, disons, mise en scène en fonction des intérêts, en fonction des préoccupations de chacun et de chaque pays.
Est-ce qu'elle a déjà été jouée, justement, au Proche-Orient ?
Elle a été jouée, la deuxième création a eu lieu à Jérusalem, au Khan Théâtre. Elle a été montée cette année par une troupe israélienne et par une pure coïncidence, j'ai assisté à la première de Terre Sainte à Tel Aviv, je crois que c'était le troisième jour de la guerre récente à Gaza cette année.
Et quelles ont été un peu les réactions des gens du public? Je suppose que les gens sont venus vous parler aussi.
Les gens, c'était assez hallucinant comme représentation, parce que dans la salle, on avait beaucoup de soldats qui rentraient du front de Gaza, beaucoup de colons, et moi j'appréhendais un peu, parce que le théâtre israélien est un théâtre très très réaliste, c'est un théâtre très direct, très frontal, donc la mise en scène même était une mise en scène très réel, plus que réaliste, et il n'y avait aucune frontière entre ce qui se déroulait sur le plateau et ce qui se déroulait à une quarantaine de kilomètres de là. Mais je crois que c'est la première fois, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la salle, qui approuvaient la dernière guerre, mais qui sont venues me voir en disant « Merci, pour la première fois, nous avons pensé aux autres. On s'est dit qu'ils peuvent avoir des sentiments et une vie. » Je pense que c'était peut-être même pour moi un aboutissement de mon travail de dramaturge.
Vous êtes, je crois savoir que vous êtes également président de l'association Écriture Vagabonde.
Oui.
C'est ça. C'est un concept très intéressant, justement, Écriture Vagabonde. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler de ces résidences d'artistes et un peu en quoi ça consiste?
Au départ, Écriture Vagabonde est une association née de l'envie d'auteurs, de metteurs en scène, de faire découvrir aux auteurs d'expression française, aux auteurs particulièrement français, qui vivent un peu cette crise de l'ego, de la démesure de l'ego qui affecte l'écriture française contemporaine, théâtrale, leur faire découvrir d'autres réalités, d'autres cultures, d'autres enjeux à travers le monde. Donc ça fait 10 ans où nous avons organisé une série de chantiers à travers le monde, aussi bien en Palestine, en Syrie, au Liban, au Mali, au Canada. Et à chaque fois, on réunissait un groupe de 5, 6 à 8 auteurs qu'on balançait, qu'on parachutait dans ces pays-là, pas évidents. Et on leur demandait d'écrire quelque chose. Et cette année, on amorce une mutation de l'association qui va changer de nom, qui va s'appeler Scène du Monde, et on va axer pour les années à venir notre travail essentiellement à mettre en relation ou à établir un réseau avec l'ensemble des théâtres alternatifs d'Europe et notamment d'Europe centrale. Donc on va commencer toute une série sur Pristina, sur Bratislava, peut-être sur Prague, Vienne, et ouvrir comme ça des ponts entre ces théâtres et surtout les scènes françaises, parce qu'en France, on a une attention à la fois pour le théâtre allemand, pour le théâtre anglais, pour le théâtre autrichien, mais il y a tout un pan du théâtre européen qui échappe complètement à la vision et à l'écoute. Et notre projet, c'est vraiment d'ouvrir des ports, d'ouvrir des lucarnes, d'établir des passerelles entre la jeune création, pas les lieux institutionnels, mais de permettre à de jeunes auteurs français, par exemple, de découvrir ce qui se passe ici et ailleurs, et de faire découvrir en France la littérature émergente de ces pays-là.
Parce que je suppose que, hormis Václav Havel, les pièces de Václav Havel, en France, il n'y a pas grand-chose qui se fait.
Non, mais chaque fois, c'est comme ça. On travaille sur Israël, par exemple. D'Israël, on ne connaît que Hanoch Levin. D'Angleterre, on ne connaît qu'Edouard Bond. De l'Autriche, on dira, on connaît Botto Strauss. Donc, à chaque fois, on a un nom emblématique qui résume à lui tout un pays. Mais là, on aimerait bien que les gens aillent au-delà des figures symboliques, d'aller au-delà de ces arbres qui cachent toutes les forêts possibles et imaginables.
Quand j'ai un peu cherché des renseignements sur vous, j'ai découvert que vous aviez aussi une position assez forte, j'allais dire, sur l'islam. Vous l'appelez la science de la mort. C'est vraiment une position très forte et assez, sans concession. D'où vient un peu cette position aussi forte, oui.
Non, mais ça part un peu de mon parcours où je suis issu d'une famille de gens très très religieux, et toute mon enfance a été baignée par cette culture musulmane religieuse. Donc je parle en connaissance de cause, mais les prises de position que j'avais eues, notamment par rapport au voile, par rapport à la laïcité, c'est un moment où la société française traverse une crise profonde d'identité, et il fallait réanimer ou réactualiser ou reparler de cette laïcité qui reste le dernier rempart aujourd'hui. Nous n'en avons pas d'autres dans la société. Il y avait des remparts associatifs, politiques, de la part de partis de gauche, mais qui n'existent, qui sont en pleine déliquescence aujourd'hui. Et s'il nous reste un dernier repère dans cette société qui est en mutation profonde, je pense que c'est la référence à la laïcité qui reste un dénominateur commun qui puisse faire le lien entre l'ensemble des cultures et des couches de la société. Et j'avais pris ces positions-là, qui peuvent paraître comme des positions radicales, comme des positions tranchées, comme une sorte de vigie, comme pour alerter par rapport à cette déferlante religieuse qui parfois vient de la communauté musulmane, mais qui caractérise aujourd'hui l'ensemble des religions. On traverse une crise, il n'y a plus de repères, comme on dit, et qu'est-ce qui reste à l'individu pour se raccrocher à quelque chose, si ce n'est l'identitaire? On le voit aujourd'hui en Europe, plus le monde s'ouvre, plus les frontières explosent, et plus les individus se braque, revienne à des choses de plus en plus anciennes. Il y a quelque chose, un mouvement contraire d'ouverture extrême et de fermeture totale et radicale. Et donc j'avais pris ces positions-là que je continue à défendre pour dire attention, l'enjeu des années à venir, c'est vraiment là que ça va se poser. C'est-à-dire il faut ménager, il faut défendre, contrairement aux positions, je dirais, criminelles, inconscientes et incohérentes du président Sarkozy, qui affirme qu'un curé apporte plus d'espoir qu'un instituteur. Moi, je pense que le dernier espoir de la République viendra plutôt des instituteurs et de la défense de cette laïcité française.
C'est intéressant parce que finalement, votre discours, qu'on pourrait appeler un discours engagé, ça me fait penser à ce que me disait Philippe Ducrot, qui lui ne parle pas du terme engagé parce qu'il n'aime pas trop les étiquettes, ouais. Mais il parlait de promouvoir le retour de l'artiste en tant que citoyen dans ses œuvres, c'est-à-dire de l'artiste citoyen qui a un point de vue. Et il estimait justement que les artistes ces dernières années avaient délaisser un peu cet espace-là. En vous écoutant, c'est pas l'impression que j'ai, justement.
Non, mais c'est important, et je rejoins Philippe là-dessus. Pour revenir au théâtre, c'est que le théâtre a quitté le terrain du politique comme si le politique était devenu suspect. C'est vrai que dans les années 60, l'art, la littérature ont été trop investis d'une fonction symbolique de par la période marxiste. On attendait tout. La littérature relevait du messianisme presque dans cette idéologie-là. Les artistes, les créateurs ont délaissé le terrain politique comme quelque chose peut-être souillé ou peut-être perverti par cette idéologie-là. Mais aujourd'hui, à force de formalisme, à force de tourner le dos au monde, on le voit, le théâtre en France traverse une crise très très grave, une crise profonde, où il tourne autour de lui-même, il se mord la queue, parce que c'est un théâtre qui a abandonné les enjeux politiques et les enjeux du monde. C'est pas plus que les enjeux politiques, c'est la vérité de la société, les débats profonds qui animent la société. Et j'étais assez surpris d'ailleurs ici, à Prague, d'apprendre par les Tchèques, ils me disent, mais on aimerait bien traduire, monter des auteurs français, mais c'est un théâtre verbal, c'est un théâtre de mots. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on a un théâtre, c'est des mots qui parlent de mots, qui parlent de mots. C'est un théâtre où l'auteur ne parle que de lui-même. Brecht avait une très belle formule, il disait, si le théâtre oublie le monde finira par oublier le théâtre. Et donc là, le travail fait par exemple sur Terre Sainte, c'était de remettre le politique au cœur de la scène, de remettre le monde, pas le politique, c'est de remettre la réalité des gens, les questionnements fondamentaux de l'individu par rapport à Dieu, par rapport à la société, par rapport à lui-même, au cœur de la création. Sachant bien sûr que, étant issu aussi de cette mouvance des années 70 de gauche, aujourd'hui, j'écris, mais en n'ayant aucune illusion sur l'impact de la littérature. Mes aînés croyaient que la littérature allait transformer le monde, qu'elle allait transformer les individus. Moi, j'écris parce que je n'attends rien de la littérature, mais je pense qu'elle est essentielle parce qu'elle est superflue.
C'était le dramaturge Mohamed Kassimi. Prochaine représentation de Terre Sainte au Rock Café, lundi soir donc. Pour les autres dates, reportez-vous au site www.rockcafé.cz. A noter que pour l'heure, le Rock Café est sous le coup d'un arrêté et ne donne plus de concerts. Une pétition est d'ailleurs disponible en ligne pour soutenir cette salle. Les spectacles de théâtre sont néanmoins maintenus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.